la télévision, la presse écrite. Qu'est-ce qui a été la préoccupation de la semaine ? Le Brexit ! Et ce matin, je me suis posé la question, enfin je me suis pas posé ce matin, hein, mais cette semaine, est-ce qu'il pourrait y avoir un Crexit ? Ça y est, Jean-Claude, il est... Pourquoi Crexit et pourquoi Brexit ? Brexit, c'est une abréviation. BR, c'est pour British. Et Exit, c'est pour sortie. La sortie des Anglais. Alors, quand je fais Crexit, c'est chrétiens qui sortent. Est-ce qu'on peut envisager que les chrétiens se divisent ? Que les chrétiens se séparent ? Que les chrétiens ne marchent plus ensemble ? Quand on se sépare, il y a forcément des conséquences. Et mon thème de ce matin n'est pas pour prendre parti, ni politiquement, ni sociologiquement, ni financièrement, dans ce qui vient d'arriver, mais plutôt à nous, chrétiens, de nous positionner vis-à-vis de ceux qui veulent se séparer. Décide, je vais dire un mot que j'apprécie pas trop, mais démocratiquement, de se séparer. Dans Hébreux au chapitre 10 et au verset 25, la tentation de Brexit, de Crexit, est découragée par le rédacteur de l'Épître aux Hébreux. Hébreux 10, 25, ce matin, il faudra suivre dans vos Bibles, ça ne va pas être affiché. Je n'ai pas envoyé mes textes aux techniciens. Donc ce n'est pas de sa faute, c'est de la mienne. Hébreux 10, 25, n'abandonnons pas notre assemblée comme quelques-uns en ont coutume, mais encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. On peut se poser des questions. Est-ce que c'est bien que je continue ? Est-ce que c'est bien que je continue de marcher avec ces gens ? Et on peut se dire, mais la Bible décourage ces choses. La Bible dénonce le divorce, la séparation, l'amertume, la méchanceté, le meurtre. Mais vous savez qu'il y a déjà eu des Crexits dans l'Écriture ? Je vous en propose deux, uniquement deux. Le premier Crexit se trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 3. Vous connaissez ce chapitre ? Le chapitre 3 ? C'est le moment où l'homme et la femme ont délibérément fait un référendum entre eux. Ils ont dit : on était dans l'alliance avec Dieu. On va en sortir. C'est ça qui se passe dans Exode 3. Il y a l'alliance, Dieu leur donne tout ce qu'il faut, Dieu les met dans un cadre idéal. Et leur dit, vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance. Et que font-ils ? Ils en mangent. Ils en mangent. Et en plus, le texte nous dit qu'il trouva beau et bon. C'est incroyable comme quoi, quand on prend des décisions, on ne regarde que l'instant présent. Et quelles ont été les conséquences de ce premier Crexit ? Dans Genèse 3, on dit, voilà, c'est à la sueur de ton front que tu travailleras. C'est avec des souffrances que tu porteras tes enfants. Mais Dieu, déjà dans ce magnifique chapitre, avait déjà promis la porte de sortie, mais les conséquences ont été terribles. Et là, il n'y a pas eu de dialogue, négociation. Madame Ève, Monsieur Adam ne sont pas venus à la table des négociations avec la CGT, la CFDT. Pour négocier, ils n'ont pas fait grève. Ils n'avaient pas encore l'idée de faire grève. Hein. C'est venu dans Axis, la grève. Bien plus tard. Vous voyez, on trouve déjà une séparation et des conséquences lourdes. Annoncées par Dieu et que nous avons payé. C'est intéressant de regarder ce péché. Et je ne dis pas que le... Ne mettez pas derrière mes mots le fait que le Brexit est un péché. Je ne parle uniquement que de la séparation. La séparation a toujours des effets sur les autres. Quant aux autres. Mais la deuxième séparation sur laquelle je vais prendre du temps avec vous ce matin se trouve au chapitre 13 du livre de la Genèse. Exode chapitre 13, si vous voulez tourner les pages avec moi. Genèse, oui. Corrigez-moi mes amis, voilà. Genèse, chapitre 13. Je donne le contexte. Dieu est venu parler avec Abraham dans son Irak. Vous savez que la Chaldée, c'est à peu près l'Irak. Et il lui dit, écoute, tu vas quitter ta ville, tu vas quitter ta famille, et tu vas aller là où je te dis, dans le pays promis. Et Abraham a quitté son pays, sa patrie. Il a emmené ses parents. Il a emmené son neveu. Et au chapitre 13, on a Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent, en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente, au commencement entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom du Seigneur. Il s'est passé quelque chose entre la promesse de Dieu et Genèse chapitre 13. C'est que effectivement, monsieur Abraham a bien arrivé en Canaan. Effectivement, il a vu le pays, mais les circonstances n'étaient pas favorables. Et il y avait une famine. C'est au verset 10 de Genèse 2. Genèse 12. Il y eut une famine dans le pays. Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer dans l'Égypte, il dit à Sarai, sa femme, ne dis surtout pas que tu es ma femme, mais dis que tu es ma sœur. Et le petit neveu Lot, il est là, avec tonton et tata. Il écoute. Et il profite. Et pendant le temps où Abraham va être là, on va lui donner beaucoup de richesses. Et on voit là, au chapitre 13, monsieur Abraham qui a quitté l'Égypte un petit peu avec perte et fracas quand le pharaon s'est aperçu que cette femme avec qui il allait bientôt coucher n'était pas la sœur. Elle l'était en vrai. Mais elle n'était pas uniquement la sœur d'Abraham, mais elle était sa femme. Et là, le verset 2 nous dit Abraham était très riche en troupeaux, en argent, en or. Il était très riche. C'est incroyable. On se dit, mais waouh, monsieur Abraham, il a été en Égypte, il a fait des choses pas très bien, et puis il est très riche. Mais là, quand il rentre, verset 4 invoque le nom de l'Éternel. Il prend le temps pour communier avec son Dieu, pour le remercier. Chapitre, verset 5. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et regardez bien, d'un seul coup, il y a un morceau de texte qui nous interroge. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble. pour qu'ils demeurent ensemble. D'un côté, Abraham a quitté son pays. Il a été fidèle. Il est rentré dans le pays promis, preuve de la fidélité de Dieu. Des événements terribles arrivent. Il quitte le pays, il va dans un autre où il y avait des richesses. Et vous vous rappelez que l'Égypte va plus tard jouer aussi un autre rôle, hein, quand il y aura à nouveau une famine sous Joseph. Et puis là, moi je m'arrête sur la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble. Ah, c'est intéressant de voir que finalement, quand les richesses grandissent, le pays d'un seul coup devient trop petit. Là, on rêve d'ailleurs. Il va falloir se séparer parce qu'avec nos richesses, on ne va pas pouvoir collaborer. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va retrouver deux autres fois dans le livre de la Genèse la même difficulté. Au chapitre 36 et au verset 7, on trouve Ésaü et Jacob. Il dit « Car leur richesse était trop considérable pour qu'ils demeurent ensemble et la contrée où ils séjournaient ne pouvait pas leur suffire à cause de leurs troupeaux. » C'est quoi le problème ? Leur problème, c'est qu'ils sont trop riches. Ils sont trop bénis. Et là, si on est trop béni, bah alors... ça crée des problèmes, en fait, d'être béni. Luc chapitre 12, verset 16 nous dit « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour y serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai des plus grands, j'amasserai toute ma récolte et tous mes biens. » Ah, ce jeune homme riche. Il est plus facile à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Le problème, Abraham, Lot, c'est un problème de richesse, de gestion des richesses. Au verset 7 de notre texte apparaît l'incident. Il y eut querelle entre les bergers et les troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Dans quelques pays qu'on se trouve, que ce soit en Europe, en Asie, en Afrique, en Chine, la majorité des gros problèmes viennent de la gestion des richesses. Parce qu'on ne sait pas les gérer. Et on appauvrit certaines personnes, et on utilise certaines personnes. Et finalement, ça devient des sujets de querelles, voire dans certains pays de guerre, pour pouvoir récupérer des intérêts. Et là, il y a querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Parce que, oh, vous voulez de l'eau, mais non, c'est à nous, on était là les premiers, mais non, c'est à moi. Il y a querelle pour nourrir le bétail. La première épître aux Corinthiens, chapitre 3. Verset 3, c'est Paul qui parle, vous savez, cette église tellement difficile. Il dit, parce que vous êtes encore charnels, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnels ? Et ne marchez-vous pas selon l'homme ? Parce qu'il y a des disputes entre vous, n'êtes-vous pas charnels ? Le chapitre 5 de l'épître aux Galates nous parle des œuvres de la chair et du fruit de l'esprit. Et quand il parle des œuvres de la chair, il parle de l'idolâtrie, de la magie, des inimitiés, des querelles, des jalousies, des animosités, des disputes, les divisions et les sectes. Waouh ! Il y avait querelle entre les bergers, les uns et les autres. Tout simplement parce qu'ils ne pouvaient pas se respecter, parce qu'ils ne pouvaient pas mettre des choses ensemble. L'épître de Jacques, au chapitre 3 et au verset 16, nous dit qu'il y a un zèle amer, un esprit de dispute. Il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Il dira plus loin au chapitre 4 et au verset 1, d'où viennent les luttes ? D'où viennent les querelles parmi vous ? N'est-ce pas vos passions qui combattent dans vos membres ? Et puis une parole de sagesse dans le livre des Proverbes au chapitre 20 et au verset 3, c'est une gloire pour l'homme de s'abstenir de querelles. Mais tout insensé se livre à l'emportement. On a la racine, la richesse, Dieu la donne, la gestion des richesses, des querelles. Wow. Et on va trouver chez M. Abraham un esprit vertueux. Verset 8, il dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Moi, je trouve M. Abraham très courageux, n'est-ce pas ? Très sage, très réfléchi. Il était l'aîné. Il était celui qui avait autorité. Il aurait pu dire à Lot, « Hé, garçon, je t'ai pris avec moi, tu es le plus petit, maintenant tu me respectes, ok ? Tu dis à tes bergers. » Et dis là, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute. Tout le pays n'est-il pas devant toi ? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. C'est beau, non ? Qu'il n'y ait pas de dispute. Un Brexit sans dispute. Sans haine. Le livre des Proverbes. Il avait dû lire, monsieur Abraham. Au chapitre 15, verset 1, une réponse douce. Calme la fureur. Mais une parole dure excite la colère. Une parole douce. Et on imagine, Abraham, il n'est pas encore Abraham, hein, il est encore Abraham. S'il te plaît, c'est pas bien ce qui arrive là, c'est pas bien. On est bénis, on est frères, et regarde, on n'y arrive plus. On va se séparer. On va séparer toutes ces choses. Dans son sermon sur la montagne, Jésus, au chapitre 5 du Matthieu, a dit, au verset 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Heureux ceux qui procurent la paix, pas la haine, pas la querelle, pas les disputes. Aux Corinthiens, au chapitre... Dans la première épître, chapitre 6, il dit « Un frère plaide contre un frère et cela devient des infidèles. » Waouh ! Entre frères, vous faites la guerre ? C'est pas comme ça qu'il faut le faire. Enfin, Hébreux 12, 14 nous dit « Recherchez la paix. » Avec tous, la sanctification, on vous en a parlé hier, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. On a identifié le problème, ils sont riches. Dieu a béni. La difficulté, il n'y a pas de DRH, on ne peut pas gérer les choses. Ils auraient dû venir notre ordinaire. Et la solution proposée, c'est la séparation. Au verset 9, tout le pays n'est-il pas devant toi ? Sépare-toi donc de moi. Abraham voit que la situation va devenir incontrôlable. Que la seule possibilité, c'est qu'on ne soit plus ensemble. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Romains 12, 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix. Et justement, dans cette première épître aux Corinthiens, au chapitre 6 et au verset 7, quand Paul avait mis en exergue le fait qu'ils avaient des problèmes, des procès, il dit « C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice ? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller ?» C'est intéressant. À chaque fois qu'on veut évacuer quelqu'un, qu'on veut avoir des problèmes avec quelqu'un, c'est tellement facile d'amener un mot qu'on utilise de toutes les sauces. Et ce mot, il s'appelle le droit. Vous n'avez jamais remarqué ? J'ai le droit. On est dans une société de droit. Et tu as le droit de te taire pendant que je parle. On fait valoir nos droits. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne fait jamais valoir nos devoirs. Et là, rechercher la paix, c'est ce qu'Abraham a cherché. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Il serait venu ces derniers temps en Europe, hein, il aurait vu, hein. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorre. C'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Et là, le verset 11 nous dit, Lot choisit la plaine du Jourdain, il s'avança vers l'Orient, c'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un et l'autre. Ce qui est intéressant, c'est que, une fois encore, le jeune, le plus ancien propose au jeune. Il n'impose pas ses droits. Il ne dit pas, voilà ce que je veux dire. Écoute, choisis. Choisis. Et qu'est-ce qu'il fait, monsieur Lot ? Il regarde, il dit, oh là là, là c'est bien. Là c'est arrosé, c'est beau. Il ne regarde pas le contexte, il ne regarde pas qui habite là, comment ça va marcher. Mais il regarde l'apparence. Oh, c'est là que je veux aller, c'est là que je veux aller. Mauvais choix. Mauvais tirage. Abraham dit, tu veux aller ? Vas-y. Vas-y, c'est à toi. Prends-le. Prends-le. Et j'imagine, tu signes, c'est bon, c'est un notaire. Hein, on fait promesse de vente, c'est bon. Choisis. Abraham habita dans le pays de Canaan. Et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs devant l'Éternel. Et là, on se dit, il a choisi. Tant mieux. Vous voulez votre indépendance, vous l'avez. Maintenant, mauvais choix, mauvais tirage, tant pis pour vous. Le psaume 26, verset 5 nous dit « Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assieds pas avec les méchants. » Vous savez, on connaît le psaume 1. Dans le psaume 1, il est dit de ne pas s'asseoir au banc des moqueurs, de ne pas marcher, de ne pas écouter les conseils des méchants. Et là, on a ça dans le psaume 26. Dans 1 Corinthiens 15, 33, il dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Lot n'avait pas considéré toutes ces choses dans son choix. Et finalement, le choix qu'il avait fait n'était pas le bon. Mais regardez bien, Dieu avait dit à Abraham, tu iras en Canaan. Et sans le choisir, Abraham se retrouve en Canaan. Au verset 14, il est dit, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux, regarde. Et du lieu où tu es, regarde vers le nord, vers le midi, vers l'Orient, vers l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Un Dieu incroyable qui avait dit à monsieur Abraham et à madame Abraham, vous aurez une postérité, vous serez riche. Vous ne pourrez même pas compter les choses. Et là, il vient d'avoir un gros problème avec son neveu. Il se dit, mais pourquoi je l'ai emmené, lui ? Et il y a des fois, on se dit, ah, mais pourquoi il est là, lui? Qu'est-ce que j'ai fait? Seigneur, j'ai fait quoi, là? Bon, tiens, tu m'en veux? Moi, c'est pas mon plan. C'est jamais notre faute, hein. Mauvais plan, c'est jamais nous, hein. Vous vous rappelez, monsieur Adam? Adam, ah, c'est pas moi. C'est la femme que toi, tu m'as donnée. Ah, puis les dames, c'est le mari que toi, tu m'as donné. Moi, je suis soumis, Seigneur. C'est lui qui est mauvais. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Hébreux 11, 12 à propos d'Abraham. D'un homme usé, d'un homme qui n'avait plus rien à espérer de la vie que de croire dans la promesse de Dieu. Mais va y avoir un mais. On a Abraham et Lot qui sont bénis, riches, qui ne savent pas gérer. Cette mauvaise gestion finit par avoir des conflits. L'aboutissement, c'est qu'ils se séparent et qu'on s'aperçoit que cette séparation amène Monsieur Lot dans une situation compliquée. Et là, je me suis posé en écrivant les lignes, je me suis dit, mais Jean-Claude, ça aurait été toi. Et souvent, j'ai écouté beaucoup de commentaires cette semaine, beaucoup roulé, donc j'écoute la radio, sur la décision de nos amis britanniques. Et on a raconté tous les jours qu'est-ce que ça allait leur coûter, comment ils allaient être dans la misère, et comment l'Europe allait être dans la misère, et comment la France allait être dans la misère. On a fait des supputations. Et là, je me suis dit à un moment, mais les Anglais, ils ont fait leur choix. Pff. Et là, Monsieur Abraham, il peut dire, hé, l'autre, je t'ai amené, j'étais pas obligé. T'es riche, ça vient, c'est à cause de moi. T'as des problèmes, je t'ai donné le pays que tu voulais. T'as fait ton choix, maintenant, assume. Non? Et c'est presque tous ont dit ça. T'as pris ta décision, maintenant, tu assumes. Mais si t'as un problème, surtout, tu viens pas te plaindre. On va lire. Alors s'avancèrent, c'est chapitre 14, c'est 8. Alors s'avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Adma, le roi de Tseboïm et le roi de Béla, qui est Tsoar, et ils se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Sidim, contre Kedorlaïomer, roi d'Elam, Tidéal, roi de Gojim, Arraphel, roi de Shinéar, et Erjok, roi d'Essigar, 4 rois contre 5. Guerre ! Là, il n'y a plus de conflit, il n'y a plus de cri, il n'y a plus de mauvaise gestion, il y a guerre. Il y a guerre. Monsieur Lot, il a fait un mauvais choix, il est au milieu d'une guerre. Et ça vous dit quelque chose à beaucoup d'entre vous, hein ? Guerre, quand il y a la guerre, on se dit, oh là là, il va m'arriver quoi ? Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre, c'est le verset 11, et toutes leurs provisions, ils s'en allèrent, ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, le frère d'Abraham qui demeurait à Sodome, et s'en allèrent. Ils ont enlevé Lot. Mais il l'a bien cherché, Lot. Et s'il avait réfléchi, qu'il ne vienne pas se plaindre, hein. Qu'il ne m'envoie pas un mot, hein. Qu'il ne me dérange pas, en tout cas. Verset 13. Un fuyard vint annoncer à Abraham l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chênes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Écol et frère d'Amner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans les maisons, poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit. Lui et ses serviteurs, il les battit, les poursuivit jusqu'à Chota, qui est dans la ville de Damas. Et il va ramener son neveu. Et moi, mes amis, c'est pas la première fois que je lis ce texte, c'est pas la première fois que j'en parle. Mais à chaque fois, ça me touche. Qu'aurions-nous fait à la place de Monsieur Abraham ? Que disons-nous à ceux qui ont pris des décisions contre nous ? Qui n'ont pas suivi nos avertissements. qui nous ont fait la guerre, qui ont provoqué des divisions, qui nous ont infligé des choses terribles. Débrouille-toi. C'est ton choix. Proverbe 17:17. L'ami aime quand tout va bien. C'est bizarre, hein ? Vous n'avez pas cette version, vous ? L'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Ouh ! Faut le souligner, celui-là. Proverbe 17:17. Proverbe 24, verset 11. Délivre ceux que l'on traîne à la mort. Ceux qu'on va égorger, sauve-les. Galates 6. Frère, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu sois aussi tenté. Dans Genèse 14, verset 16, il est dit d'Abraham, il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et les peuples. Waouh ! Il y avait un problème. Ils ont été bénis. Ils n'ont pas su gérer ces bénédictions. Ils n'ont plus compté sur Dieu. Mais dans sa grâce, dans la grâce de Dieu, Dieu a mis sur le cœur d'Abraham quelque chose d'extraordinaire, la compassion et l'amour. Et il offre au plus jeune, choisi. Le jeune choisi fait les mauvais choix, se sépare, profite, vit certainement de la mauvaise façon. Et ça se termine mal puisque finalement il est enlevé. Mais regardez bien, on vient de lire, quand on vient lui dire que son neveu est enlevé, au lieu de dire, eh ben, tant pis pour lui, hein, il se lève, va le chercher, le ramène. C'est un peu l'histoire du fils prodigue, vous vous rappelez ? Et que dit le frère aîné à la fin ? Mais c'est pas juste ! C'est pas juste, tu fais la fête pour lui, il a tout gaspillé, il a tout renié, il a banni ton nom, puis regarde, tu fais la fête. C'est notre Dieu, n'est-ce pas ? Qui se réjouit lorsqu'un pécheur se repent. Mais regardez, ça va aller plus loin que ça. Non seulement Dieu a mis sur le cœur d'Abraham de l'amour, de la compréhension, de la sagesse, de la douceur, alors que tout était prêt à s'enflammer. Vous savez, des fois, il y a des discussions, il ne manque plus qu'une petite allumette pour que ça parte. Et là, moi, je trouve souvent extraordinaire que alors que, voilà, tout est prêt à s'enflammer. D'un seul coup, il y a quelqu'un qui amène une parole toute calme en disant, bon, on pourrait peut-être prier. Est-ce qu'on peut reconsidérer la situation ? Et là, au verset 17, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Verset 18, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a délivré tes ennemis entre tes mains. Et regardez bien, Abraham lui donna la dîme de tout. Oh ! C'est un texte qui nous parle de droiture, d'amour, de réconciliation, de célébration et d'offrande. Pas de haine, pas de rancœur, pas débrouille-toi, t'as fait tes mauvais choix, dégage. Mais la victoire. J'imagine Abraham, il pourrait être devant Lot en disant, hé Abraham, qu'est-ce qu'on dit à tonton ? Tu sais que si t'es là maintenant, c'est Bibi, j'ai payé pour toi. Tu t'es mis dans une misère noire, et regarde. Merci, Merci qui ? Melchisédek, il dit quoi ? Il dit merci qui ? Il dit merci Dieu. Merci Dieu. Mes amis, ce qui est extraordinaire, c'est de voir qu'est-ce que Dieu peut faire dans le cœur d'un homme, même au cours de la tourmente. Même quand ceux qui sont à côté, qui utilisent ceux qui sont juste de l'autre côté du Chanel, décident de se séparer. Que Dieu nous donne l'amour suffisant, sans parler de nos amis anglais, de parler de ceux qui sont autour de nous et qui ont mis des distances, de ceux qui ne nous comprennent plus, de ceux qui ont dit « mais on ne peut pas vivre sous le même toit, on ne peut même pas vivre dans la même ville, on ne peut pas marcher sur le même trottoir ». Vous savez, des fois, il arrive qu'on ait des conflits avec des frères ou des sœurs. Enfin, je ne sais pas si ça vous arrive, mais malheureusement, ça m'arrive aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant un certain temps, pendant la résolution du conflit, si éventuellement on est dans la même rue, on ne marche plus sur le même trottoir, on ne monte plus dans le même ascenseur, il va falloir qu'on se voie et qu'on se parle. Ok. Et quand Dieu nous réunit, quand Dieu nous dit « mais c'était si grave que vous avez mis des murs autour de vous ?» Que vous ne vous êtes plus parlé pendant des jours, des semaines. Et là, les larmes coulent. Seigneur, c'était tellement bête. Et on ne peut faire qu'une chose, c'est dire pardon, Seigneur. Nous étions ennemis de Dieu. On avait violé l'alliance, dit Jérémie. Et Dieu est venu marcher sur notre trottoir. Il ne nous a pas dit « débrouillez-vous !» Quand nous étions perdus, il est venu nous sauver. Quand nous étions égarés, il est venu nous chercher. Wow. C'est toute une leçon, le Brexit. Alors que nous avons des amis, des frères, des sœurs qui vont peut-être payer les conséquences de tout ça. Que Dieu mette sur notre cœur ce qu'il a mis sur le cœur d'Abraham, de l'amour. Que nous puissions prier pour ceux qui sont séparés, pour ceux qui se sont séparés de nous, ou que peut-être, vous avez vu, monsieur Abraham, il a proposé la séparation. Il a dit, si on ne peut plus marcher ensemble, alors séparons-nous, mais dans la paix, pour que nous puissions nous réconcilier. Hébreux chapitre 7, versets 4 et 9 dit « Combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme de tout le butin. » Seigneur, c'est toi qui as fait ces choses dans ma vie. Si j'ai pu me réconcilier avec tel ou tel frère, telle sœur, c'est pas grâce à moi. C'est pas par mes efforts. Et s'il y a encore un frère, une sœur avec qui j'ai des conflits, un frère, une sœur, peut-être dont je pense vraiment du mal, en disant il a fait son choix lui, il nous a quittés, il ne nous parle plus, il m'écrit même plus, il m'a enlevé de son Facebook, j'ai même plus le droit d'aller voir les images. Là, on en est là aujourd'hui, hein. Quand on est fâché avec quelqu'un, on voit enfin un mot, on dit il vous a retiré de ses amis. Vous avez jamais reçu ça ? Des gens qui ne veulent plus que vous ayez voir sur leur Facebook. On vous a retiré de nos amis. Dieu est un Dieu qui dépasse ça. Alors voilà, mon message de ce matin, c'est que doit pas y avoir de Crexit, de sortie des chrétiens, de division des chrétiens. Et que la première épître aux Corinthiens, chapitre 7, dit que si on doit se séparer, ce soit un temps de prière pour pouvoir se remettre ensemble. Que Dieu nous encourage, non pas dans le problème du Brexit, même si on va en entendre parler, certainement le vivre en tant que communauté européenne, je pense. Notre but et mon but ce matin, ce n'est pas de juger, mais de nous amener à considérer quelle va être notre réaction, quelle est notre réaction vis-à-vis de ceux qui se séparent. Est-ce que c'est l'amour d'Abraham? Ou est-ce que c'est encore ce fruit de la chair, ces œuvres charnelles qui nous combattent? Est-ce que Dieu a besoin de revisiter nos cœurs pour permettre de solutionner nos problèmes familiaux, nos problèmes conjugaux, nos problèmes familiaux, nos problèmes dans le monde du travail, nos problèmes fraternels entre frères et sœurs? Que cet exemple d'Abraham et Lot nous encourage à ne pas regarder aux circonstances, mais de regarder à Dieu pour que Dieu soit vainqueur et pour que, à la fin, non seulement on puisse célébrer ensemble avec le pain et le vin, mais qu'en plus on puisse offrir à Dieu le résultat de cette rencontre. Amen. Je vous invite à prier.